Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Journaliste, théoricienne du cinéma, réalisatrice, productrice, féministe, c'était une passionnée, une femme engagée et prise de toute forme d'expression artistique. Elle est surtout l'une des premières en France à envisager le cinéma naissant comme un art à part entière. Aujourd'hui, Alexandre Tilski-Vuillaume et Julie Béressi vous proposent le portrait de Germaine Dulac, 1882-1942. C'est toute une vie à créer, penser, s'émanciper.
Voici maintenant Germaine Dulac.
À cette tribune sera-t-elle brève et strictement professionnelle?
Quelle énergie elle avait! J'aimerais qu'un jour on écrive une journée de Germaine Dulac, qu'est-ce que ça pouvait être? Entre les conférences qu'elle faisait à travers la France, les participations comme secrétaire de telle association, trésorière de telle autre, les ciné-clubs, les films.
Ce soir, d'être réunis ici par le cinéma et pour le cinéma.
Les textes pour les revues, elle a fondé elle-même une revue, Schéma, en 1927. Donc, cette énergie folle. Et quand on la lit, on comprend aussi qu'il y avait quelque chose de très fort qui l'animait, le cinéma. Toutes les formes de cinéma, pour elle, étaient comme une expression, une des facettes de ce cinéma qui était pour elle si cher. Là où on pense la trouver à un endroit, elle est déjà à un autre.
Toute une vie, Germaine Dulac, 1882-1942, première cinéaste essayiste. Un documentaire d'Alexandre Vuillaume-Tilski et Julie Béressi.
Alors, j'ai découvert Germaine Dulac en étant une étudiante à Los Angeles, à UCLA.
Tammy Williams, professeur à l'université du Wisconsin.
Et ma directrice m'avait demandé d'étudier le travail de Dulac et j'ai dit « Ah, ça ne m'intéresse pas vraiment. » Et par contre, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier le cinéma éducateur, etc. Donc, je suis embarquée à Paris au mois d'août et toutes les bibliothèques étaient fermées. Sauf une, la bibliothèque de l'Arsenal. Et donc, je suis entrée et je commençais à étudier le cinéma éducateur et je suis tombée sur un article par Germaine Dulac. Et c'était un article sur les actualités dans les années 30.
Qu'on le veuille ou non, par les actualités, les idées, les joies et les peines circulent et deviennent moins hautaines, moins abstraites. Ce qui appartenait jadis aux spécialistes et aux gens d'études s'adresse maintenant au spectateur le moins raffiné qui s'assoit dans un fauteuil avec la seule tâche que de bien regarder. Les actualités sont le plus grand moyen de correspondance entre les peuples et les classes. C'est donc internationalement et socialement qu'il faut envisager le problème des actualités qui contiennent, en plus, l'esprit du vrai cinéma.
Et j'étais éblouie. Je ne savais même pas qu'elle avait travaillé dans les années 30 sur les actualités. Elle était directrice de France Actualité Gaumont, un des 6 plus grandes compagnies dans le monde. Elle avait réalisé les premiers films de Tour de France, du 24 heures du Mans. Dans les années 30, elle était une des premières femmes à entrer dans le dressing room des hommes. Les femmes n'étaient pas permises de faire ça. Et il y a des articles qui expliquent qu'elle avait tourné ses films pour les livrer au plus tôt possible aux salles de cinéma en France pour qu'ils puissent suivre ces grands événements sportifs.
Voici Lille et tous les hommes sont encore dans un seul peloton. Un peloton que même l'enfer du Nord ne disloquera pas. et à Lens, coureurs se ravitaillent, ils sont encore plus de 40.
Aussi, je suis allée à la bibliothèque rue Champollion, Ciné-Reflet, et j'ai découvert un livre qui s'appelle « Écrit sur le cinéma » de Germaine Dulac, des écrits de 1919 à 1937. C'était un petit livre rouge et j'ai découvert dans ce livre une trentaine d'articles que Dulac avait écrits. Et j'ai commencé à les lire avec passion, sans cesse. Même maintenant, j'ai toujours ce livre avec 100 post-it collés dedans. Et ma tête a explosé parce que je me suis dit, ce n'est pas le Germaine Dulac que nous connaissons. Et la bibliothèque de films, la Bifi, était la rue Faubourg-Saint-Antoine. Je suis entrée dans ses archives. J'ai demandé de regarder les archives de Germaine Dulac. Et ils m'ont dit, voilà, il y a 5000 documents de Germaine Dulac. Par où est-ce que vous voulez commencer? Et j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait, elle avait réalisé une trentaine de films de fiction et autant, ou beaucoup plus même, de films d'actualité. De la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, elle avait réalisé une énorme quantité d'œuvres. Et en plus, petit à petit, j'ai découvert que ces films existaient toujours dans les archives à Paris. Donc, je me suis installée dans les archives avec mon petit ordinateur tous les jours, de l'ouverture à la fermeture, de lundi à vendredi, pendant 4 ans.
Anne Imbert, vous avez réalisé le seul documentaire dédié à notre chère Germaine Dulac en 2005-2006. Et à cette occasion, vous êtes plongée dans ses archives et vous avez passé du temps à Amiens, sa ville de naissance.
Tout à fait.
Et pendant vos recherches aussi, vous avez découvert que à Amiens, personne connaissait.
Ben malheureusement, j'étais un peu, un peu surprise du fait que son nom n'évoquait pas grand-chose, surtout dans la bibliothèque, la médiathèque. Alors je me suis dit non, mais donc je me suis investie auprès des personnels là qui étaient là, qui m'ont accueillie de manière très très sympathique, très charmante. Et j'ai donc proposé ensuite à la municipalité de l'époque si on pouvait pas mettre quelque part une inscription. Voilà. Donc, en effet, il y a eu une plaque posée sur sa maison, sur la façade de sa maison. C'est marqué ici, est née Germaine Dulac, cinéaste, pionnière du cinéma. Une femme pionnière du cinéma.
Alors, moi, je parlerai du point de vue du cinéaste dit expérimental, où Dulac, elle est restée très importante pour nous dans ce domaine-là, essentiellement par ses textes, par son écriture extrêmement sensible et en même temps tout à fait construite théoriquement.
Dominique Willoughby, cinéaste et professeur à Paris 8.
Qui a peu d'équivalent parmi sa génération, puisque tout l'intérêt de Dulac, c'est qu'elle s'est trouvée prise dans cette espèce de tumulte des avant-gardes successives qui se sont un peu télescopées depuis le désir de films d'art de 1908, de Canudo, les films d'art, et ensuite ce qu'on a appelé la première, la deuxième, voire la troisième avant-garde. Voilà. Et puis, surtout, elle a une trajectoire alors qui est quand même unique, parce que j'ai envie de dire que c'est pas seulement une femme cinéaste, mais c'est une femme de cinéma. C'est-à-dire que elle ne va négliger aucun des engagements du cinéma pris comme un fait global. C'est pas seulement faire des films, elle en fait beaucoup. On va voir qu'elle a une trajectoire de cinéaste incroyable aussi, puisqu'elle commence presque par hasard à faire du cinéma. Elle fait ce qu'on appelle des drames à l'époque, dans le cadre de l'industrie. Et puis, elle veut aller vers des formes plus élaborées artistiquement. Donc, elle fera, avec la rencontre avec Deluc, elle va être dans ce qu'on va appeler l'impressionnisme cinématographique, qui est différent de l'impressionnisme en peinture, bien sûr. Et puis, elle va aller de plus en plus loin. Elle va faire un film surréaliste, avant même Buñuel et Dali. Et puis, elle termine, enfin, à partir de 25, 26, il y a un tournant. Et elle va vers le cinéma pur, intégral. Elle fait trois films très intéressants, là, qui sont réellement des films qu'on peut classer dans l'avant-garde, pour enfin se consacrer aux actualités, en passant par un grand intérêt pour le film scientifique. Donc c'est une trajectoire très particulière. C'est pas du tout la jeune cinéaste qui commence par faire de l'avant-garde et qui finit par s'insérer dans l'industrie. C'est exactement presque un chemin à rebours.
Le cinéma d'avant-garde. L'avant-garde a été la recherche et la manifestation abstraite de la pensée et de la technique pure. Elle a posé non seulement les bases de la dramaturgie de l'écran, mais a recherché et propagé toutes les possibilités d'expression enfermées dans l'objectif d'une caméra. Son influence est indéniable. Elle a, si l'on peut dire, affiné l'œil du public, la sensibilité des créateurs et défriché, tout en l'élargissant, la pensée cinématographique dans sa vaste étendue. L'avant-garde, répétons-le, est un ferment de vie. Elle contient en germe les conceptions des générations futures, donc le progrès. L'avant-garde cinématographique est nécessaire à l'art et à l'industrie.
Germaine Dulac est issue d'une famille aristocratique. Sa grand-mère était une comtesse. Sa famille était une des plus grandes familles industrielles en France. La famille Schneider du Creusot, et son oncle était un grand homme politique qui travaillait à côté de Marcel Samba pendant la Première Guerre mondiale et qui était aussi très importante en créant la loi de 1905 qui a séparé l'Église et l'État. Mais Germaine Dulac n'était pas tout à fait d'accord avec les idées de sa famille. Et donc, elle est devenue un peu rebelle contre sa famille à un jeune âge. Donc, son père était un général militaire et elle habitait à Paris avec sa grand-mère pendant que les premiers films étaient faits par les Lumières et Alice Guy et Georges Méliès. Au tournant du siècle, en fait. Et Germaine Dulac, elle vivait dans un couvent. Et quand elle sortit du couvent, elle avait un choix. Bon, soit elle avait le choix de rester dans le couvent ou de se marier. Elle a rencontré Albert Dulac, qu'elle trouvait était un homme qu'elle respectait beaucoup et qui lui respectait aussi. Et elle avait décidé de se marier avec Albert Dulac. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que Germaine Dulac était lesbienne. Et en lisant les lettres entre Dulac et son mari, je me suis rendu compte à un certain moment que le moment de leur mariage était, dans les paroles de Albert Dulac, il dit, le moment de notre mariage en 1905 était le moment de notre libération. Cette phrase m'avait, je ne comprenais pas tout à fait quand j'avais lu cette phrase au début de mes recherches. Mais après quelques temps, j'ai compris, en fait, que non seulement Dulac, Germaine Dulac était lesbienne, mais je pense aussi que son mari était homosexuel. Et je pense que c'était un arrangement entre les deux. Ils s'aimaient beaucoup, ils se soutenaient absolument. Albert Dulac était un féministe et socialiste, comme Marcel Samba et les politiciens et les artistes, les personnes dans leur milieu. Et Albert Dulac soutenait Germaine tout à fait. Mais pendant la Première Guerre mondiale, Albert est parti. Et pendant cette période, Germaine Dulac avait plusieurs amantes. La première était une danseuse, la première que nous connaissons était la danseuse Stasia Niaprokowska. Et Dulac était absolument toqué, comme on disait à l'époque, de Stasia.
Germaine Dulac, elle commence à réaliser des films en 1915. Et pour renforcer ce lien à la danse, on sait par exemple qu'elle décide de devenir cinéaste après un séjour en Italie avec la danseuse étoile de l'opéra Stacia Napierskoska.
Barbara Janikas, doctorante à Paris 8.
Qui l'encourage à devenir cinéaste. Et Stacia va ensuite jouer le rôle de protagoniste dans certains des premiers films de Dulac, où par exemple dans Vénus Victrice, son rôle de protagoniste est inspiré de la danseuse Ida Rubinstein. Donc là, il y a déjà un travail de la gestuelle du personnage principal, inspiré du caractère ésotérique des mouvements de cette danseuse, comme un travail pour l'émancipation de ce personnage féminin. La gestuelle, elle devient une manière d'émanciper les personnages féminins.
Dans la série de Madame Budin, là, c'est vraiment très intéressant aussi. Quand la femme, c'est, je dans cette séquence, c'est en trois plans, ça tient à trois plans. Il y a une femme qui est aussi en déshabillé chez elle. On suppose que c'est sa chambre ou un cabinet de toilette adjacent et qui va vers sa table de toilette comme avaient les dames à cette époque. Et elle s'assoit, bon, ça c'est un plan. Et on voit, la femme, on ne la voit pratiquement pas, on ne voit que elle est de dos. Elle, au départ, elle a un petit peu de profil, puis de dos. Une fois assise, deuxième plan, on se trouve face à cette table. Trois grands miroirs. Vous savez ce qu'on appelait les glaces à trois faces, mais là, dans un format très grand. Donc, cette femme, on ne la voit que en reflet. Donc, déjà, c'est une idée intéressante pour l'époque. Et cette femme commence à se brosser les cheveux, mais elle le fait de manière si lente, je dirais presque voluptueuse. Et en même temps, on sent à la fois le plaisir du brossage et en même temps la mise en avant d'un ennui, vous voyez, d'une espèce de désespérance, presque jusqu'à la mélancolie. Paf ! Autre plan. Un autre cadrage. On est au même endroit. Mais le premier miroir, parce qu'il est toujours avec ces grands miroirs-là, est coupé en deux. Donc, on ne voit plus que la moitié. Le restant reste à peu près pareil, mais là, il y a la moitié. Voilà. Et là, ce que l'on voit, son visage, est d'une désolation absolument pas possible. C'est ce qu'aujourd'hui, on appellerait quelqu'un qui a une dépression, quoi. Voilà. À l'époque, on ne disait pas comme ça. Voilà. Et alors, elle continue, malgré tout, son brossage, de manière aussi lente. Mais... même ça disparaît. Et je trouve que c'est un regard sur les femmes de cette époque, bon, qui sont brisées par le fait de se représenter. Vous voyez, bon, elle doit faire honneur à son mari, se présenter bien, parce qu'elle est bourgeoise, on voit bien, c'est pas une ouvrière. Bon, et je trouve que c'est une manière de le dire en trois plans, extrêmement simple, très forte. Et ça dure, je sais pas, l'ensemble des trois plans doit faire 3 secondes, 3 ou 4 secondes, vous voyez.
En fait, elle crée les premiers plans, on va dire, pas les premiers en soi, mais des plans subjectifs du point de vue féminin, où on a l'impression que les images, elles matérialisent les pensées de ce personnage. Et ça avec des déformations d'images, des prismes déformants, des caches et des contre-caches, aussi des jeux de vitesse, variations de vitesse, et un travail du gros plan qui va pas seulement à la recherche du détail, mais à ce que émane de ce détail, le pouvoir suggestif des images.
Vous diriez qu'il y a une sensualité, Germaine
Dulac ? Ah oui, bien sûr. Très net.
Arabesque, par exemple, c'est...
Oui, arabesque, mais presque dans tous ses films. Mmh. Si on regarde, bon, moi je regarde quand je travaille sur un cinéaste, je regarde évidemment tous ses films et je les étudie plan par plan. Donc, évidemment, on découvre des choses que peut-être on ne voit pas au premier visionnage, à la première réception.
J'adore les livres, la photographie, la politique. Si je ne faisais pas de cinéma, je ferais de la politique. Oui, je suis devenue encore plus féministe depuis les dernières élections. Depuis que j'ai vu les affiches, les fameuses affiches, vous savez, où la France, la Serbie, la Roumanie étaient indiquées par une tache noire comme étant les seuls pays où l'on ne vote pas. Il faut que la femme vote. Dites-le, je l'ai dit.
Je pose ma candidature à la députation dans la circonscription...
Dans le travail de Germaine Dulac, elle n'adresse pas le suffragisme directement. Par contre, elle a des personnages féminins qui sont égalitaires. Elle crée des histoires centrées sur la vie de la femme, la vie intérieure de la femme, ses désirs professionnels, personnels, ses conflits intérieurs, son désir d'être maman ou son désir d'avoir une carrière. Donc, elle était féministe à fond, et elle travaillait avec l'Institut international du cinéma éducateur et la Société des Nations, avec l'Institut the International Women's Organization, le Conseil national des femmes françaises et le Conseil international des femmes. Germaine Dulac faisait partie de ces organismes. Elle travaillait à fond sur le front féministe et ce qu'on appelait à l'époque le mouvement du progrès féminin. Et elle n'en parlait pas dans ses écrits sur le cinéma, mais elle voulait un cinéma qui révélait la vie de la femme, la vie de l'homme, la nouvelle femme et la nouvelle homme dont elle avait besoin, disons. Et donc, je sais que le féminisme avec un F est un gros mot en France, un peu. Mais ce qui était compris à l'époque comme le féminisme était en fait le mouvement du progrès féminin et le mouvement pour l'égalitarianisme entre les hommes et les femmes. Les droits de l'homme et les droits de la femme, de réaliser leurs rêves et leur vie.
Et là, il y a quelque chose de très contemporain aussi, c'est-à-dire on voit bien que finalement, toutes les histoires autour du regard du cinéma, on parle beaucoup de gaze maintenant, il y a ce gaze, ça veut dire le regard en anglais. Parce que on a eu des approches très intéressantes d'ailleurs sociologiques sur le fait que le cinéma était majoritairement fait par des hommes et que donc le gaze, le regard qu'ils portaient sur les était un regard patriarcal, ce qui est sans doute tout à fait vrai, et que du coup, maintenant, peut-être Dulac, et effectivement dans ses films, il y a un woman gaze, il y a un regard féminin. Mais dans l'avant-garde, il y a quasiment l'idée de la dissolution du regard, c'est-à-dire on se tourne plus de manière narcissique ou de manière documentée vers l'image humaine, c'est-à-dire l'humain ne se regarde plus sur l'écran, mais il s'ouvre au monde, il s'ouvre à un monde qui est encore plus profond, encore plus mystérieux.
Le sens du cinéma. On ne peut le nier, le cinéma décuple nos connaissances. À tout instant, il nous jette hors de notre cadre, hors de notre milieu, hors de nos pensées familières, hors de nos connaissances acquises, dans des mondes ignorés. Il est un œil puissant qui s'ajoute au nôtre, beaucoup trop limité. L'invisible, ce qui existe matériellement en dehors de notre perception, le cinéma se plaît à le capter.
Germaine Dulac s'est divorcée avec Albert après la guerre, en 1921, et elle avait rencontré une femme, Marianne Colson-Malville, la femme avec laquelle elle allait passer le reste de sa vie. Marianne Colson-Malville était une femme qui travaillait dans l'exploitation des grandes salles parisiennes. Germaine Dulac et Marianne sont devenues, à partir de 1902-23, inséparables. Et Marianne avait travaillé en tant qu'assistante sur presque tous les films de Dulac. Et Marianne était le grand amour de Germaine Dulac. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant la fin des années 20, on pourrait les trouver ensemble, dansant dans les cabarets près de Montmartre. Elles adoraient danser, elles adoraient écouter la musique et jouer la musique au piano, écouter des gramophones.
Quatre femmes la garnie, quatre femmes tout vent dehors. Elles ont moulé dans des bras de soie
et en fait, Marianne écrivait des paroles pour les chansons françaises dans les années 30. Et Germaine Dulac avait réalisé quelques petits films de Fréhel, par exemple, avec les chansons pour lesquelles Marianne avait écrit les paroles.
Comme je n'avais plus de parents, l'école je rentrais tristement toute seule. Pour m'aider à faire mes devoirs, personne, toujours matin et soir, toute seule. Plus tard, lasse, j'ai pris un amant qui bientôt me laissa froidement toute seule. Mais au bonheur, je suis un garçon, je n'étais plus comme c'était.
Encore une fois, elle réalise un cinéma très narratif. Et il y a un tournant dans la deuxième partie des années 20.
Prosper Hilleret, historien du cinéma.
Dans un texte fameux d'ailleurs du sentiment à la ligne qu'elle écrit pour sa propre revue, où là, d'un seul coup, elle se met à défendre l'école abstraite, qu'on appelle parfois film absolu ou cinéma intégral. Et elle reconnaît qu'elle n'appartient pas à cette école, mais qu'elle voit là, en fait, justement, comme une expression de cette pureté du mouvement du cinéma pur, d'un cinéma qui n'est que ligne, forme, volume, couleur même, qui n'est que graphe, cinématographe à la lettre. Et elle va effectuer pour elle-même ce mouvement vers cette abstraction. Et ça, je trouve ça très émouvant de quelqu'un qui va même quitter, de ce point de vue-là, la production traditionnelle. Elle autoproduira ses films. L'idée ici, c'est de donner une dimension musicale au cinéma, un horizon musical, l'analogie musicale, c'est les fameux thèmes de musique de l'œil, musique du silence, etc. Et pour moi, elle va le faire en plusieurs étapes. En 27, l'invitation au voyage d'après le poème de Baudelaire dans une forme poétique, puis La coquille clergyman, l'adaptation d'Artaud, une forme surréaliste basée sur le rêve, où déjà on quitte le réalisme, et pour arriver à trois films qu'on appelle les films abstraits ou les films rythmiques, Disque 957, Étude pour une arabesque, Thème et variation, où là on est à la toute fin des années 20, elle arrive enfin à réaliser le cinéma dont elle s'était fait la turiféraire pendant des années et des années.
La soirée la plus mémorable et la plus dramatique de cette période qui précède le film parlant est la première de La coquille et le clergyman. Le film de Germaine Dulac s'inspire d'un scénario d'Antonin Artaud, lequel est alors au plus mal avec le groupe surréaliste. La séance s'annonce orageuse. Depuis quelques jours, le bruit s'est répandu dans Paris que Germaine Dulac et Artaud seraient fusillés sur l'écran à coups de siphon et de bouteilles d'encre. Dans l'après-midi, une jeune américaine, excitée par ces rumeurs alléchantes, téléphone aux Ursulines et demande, avec un fort accent de New York, si l'on donne bien ce soir le curé et le crustacé.
Mais demandons ce film est un scandale.
Ah, mais là, vous pouvez pas imaginer. Il est aux Ursulines, La coquille et le clergyman, présenté, enfin la première, au studio des Ursulines. C'est des choses que l'on ne connaît plus. Parce que il y a tous les surréalistes qui sont là. Desnos, Aragon, ils sont tous là. Bon. Pourtant, ils auraient pu adhérer. On pouvait penser qu'ils pouvaient. Breton, évidemment. Donc, non. C'est non seulement, bon, aujourd'hui, à la limite, les gens râleraient dans la salle ou tempêteraient. Mais là, je veux dire, on prend des bouteilles d'encre, on les balance sur l'écran. Des bouteilles d'encre. Bon. On déchire l'écran. On se bat. Ils se battent entre eux. Bon.
J'avais été prévenu que des incidents étaient possibles en raison d'un litige d'ordre esthétique entre Madame Dulac, Antonin Artaud et un groupe de surréalistes. Et j'avoue que je ne voyais pas sans inquiétude les larges épaules de Breton trônant au milieu de ses disciples, Aragon, Robert Desnos, Sadoul et une douzaine d'autres qui m'avaient l'air parfaitement décidés. C'est seulement à partir du moment où le titre apparut... La coquille et le clergyman. À ce moment-là, Breton se lève. Breton se lève, et d'un ton parfaitement courtois d'ailleurs, déclare « J'ai à dire que Madame Dulac est une... » À ce moment-là, j'aurais mis un vacarme à affreux. Charles de Saint-Cyr, dans son Max Ardan noir, se lève, crie « Je ne tolérerai pas qu'on injurie une femme devant moi. L'homme qui injurie une femme est un lâche. » Des jeunes gens qui sont dans la salle crient « Au cimetière, tu n'es qu'une vieille noix. » La bagarre se répand. Non seulement on ne se bat plus dans la salle parce qu'on manquait tout de même un peu d'aise, mais on se répand dans le bar où l'on pouvait mieux ajuster ses directs, où l'on pouvait mieux calculer ses coups de pied au derrière. Enfin, la bagarre se prolonge pendant 45 minutes.
Et donc, Germaine Dulac, avec la coquine Clergyman, déclenche un scandale lors de la première projection, et puis ça continue lors des autres projections.
Ah ben, le film, il est pratiquement plus jamais projeté. Ouais. Parce que vous croyez que les gens qui les exploitants de salles, bon. Mais par contre, le film est très intéressant au point de vue cinématographique. Hein. Quand on le relit aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant.
Et donc Antonin Artaud et Germaine Dulac, sur ce film, ça se passe pas très bien.
Ben, c'est-à-dire qu'au départ, ils sont d'accord. Au début, ça va. Et puis plus on avance dans le film, ben plus c'est la bagarre avec Artaud, ils sont pas d'accord, quoi. Voilà. Alors,
pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, c'est au niveau de la forme. C'est au niveau de la forme. Voilà. Artaud veut pas la célèbre séquence où on voit le curé qui à genoux sur le trottoir déboule le trottoir à genoux en criant vociférant, etc. Bon, alors ça va pas avec Dulac. Je dirais Artaud, il est quand même très singulier, extrêmement intéressant. Extrêmement riche intellectuellement, aussi poétiquement. Enfin, moi, je considère que c'est un grand, grand personnage de la littérature, une grande personne. Mais c'est un homme. Et le cinéma de Germaine Dulac, c'est une dame. Et à l'époque, elle essaye de parler, d'évoquer quelque chose sur la femme. Donc, évidemment, les deux, comme l'autre, il est quand même très vite colérique, hein. Il est très vite violent. Donc, ça fait des clashs, quoi.
Alors oui, parce qu'effectivement, de l'idéal et de la théorie à la réalisation, y a un abîme toujours. C'est-à-dire, un film ne naît pas d'une idée, surtout dans le domaine expérimental. On croit qu'on a une idée, mais après, dès qu'on met les mains dans les images ou les yeux dans les images, ce sont ces images qui nous emmènent là où elles veulent. Et c'est pas tellement notre raisonnement qui nous permet de les maîtriser. Mais il y a quand même des choses dans ces trois films, en tout cas Disque 957, Thème et variation et Études cinématographiques sur une arabesque. Trois films qu'elle fait en deux ans, hein, entre 27 et 29. Il y a des moments vraiment qui sont très forts, hein, qui la mettent tout à fait à la hauteur d'un Buñuel, d'un Henri Chaumette, qu'on connaît pas très bien, mais qui a fait Jeu des reflets de la vitesse, qui est un pur chef-d'œuvre presque unique. Et donc, alors ce qu'elle a essayé de faire, par exemple, c'est dans Thème et variation, elle alterne une ballerine, les gestes d'une femme, très gracieux, avec des déroulés, elle a une grande jupe plissée, et puis des mouvements de machines. Alors ça, c'était très en vogue hein, dans les années 20, les symphonies des machines. Mais à un moment donné, elle introduit justement cette figure à laquelle elle revient toujours, qui est la croissance des végétaux. Donc elle, à son tour, va filmer en accéléré, en time-lapse, on dirait aujourd'hui, des mouvements de plantes. Et il y a des moments, il y a un moment qui est incroyable, où il y a le bras de la danseuse, on voit juste le bras, qui s'élève en arabesque et qui est raccord avec les mouvements des tiges des plantes. Et là, c'est un moment incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans le temps où on passe d'une image à l'autre, là, on sent qu'elle a touché, elle a atteint son objectif. Elle a atteint son objectif qui est que cette expression vitale et effective que le cinéma peut nous donner du mouvement, que ça soit une femme qui danse, que ça soit la tige d'un haricot en pleine croissance, ou que ça soit une ligne graphique à la Fischinger ou à la Egling, on a notre œil, notre vision humaine. Pour elle, ça la renvoie à un schéma fondamental de la vie et du plaisir de voir la vie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ça. Là-dessus, c'est tout à fait réussi.
Thank you.
du lac, on peut se ressourcer en permanence. Si on a une hésitation sur une question, je dirais qu'il faut se replonger, puisque c'est vraiment une initiatrice, une incitatrice, quelqu'un qui véritablement fait des appels permanents au public, aux gens de cinéma, pour inventer un nouveau cinéma, pour créer, comme elle dit dans un de ses premiers textes, elle dit ne pas copier, créer. C'est un éloge de la création, du cinéma comme création et non pas comme répétition. Une de ses grandes idées, qui est propre d'ailleurs aux années 20 en général, c'est de penser que le cinéma, et le cinéma de cette époque pour eux, pour cette jeune génération, est un cinéma qui est une espèce de sous-littérature ou de sous-théâtre. Et en fait, ils se disent, le grand thème, c'est le thème de la trahison. On a trahi le cinéma. On n'a pas inventé le cinéma pour être sous littérature et sous théâtre. C'est pas la peine. Il y a déjà la littérature et le théâtre. Donc, Dulac fait un mouvement que font d'ailleurs d'autres, mais celle qui le mène le plus loin, de remonter aux origines de cinéma, du cinéma, et de se poser la question pourquoi on a inventé le cinéma. Elle remonte aux Frères Lumière. Et là, elle découvre, si on peut dire, quelque chose qui est très particulier, qui est très propre au cinéma, qui est le mouvement. Le cinéma est une machine scientifique et industrielle de captation du mouvement. Métal inconnu, dit-elle. Mais il a été tout de suite détourné vers le cinéma de récit, la forme de mise en scène théâtrale, thème de la trahison. Et il faut retrouver pour cette nouvelle génération, se ressourcer à cette espèce de vivification du mouvement, du cinéma comme mouvement, et que Dulac va mener, c'est ça sa grande spécificité par rapport aux autres. Vous avez les textes d'Epstein sur la photogénie, qui est à peu près parallèle, mais elle va vraiment au cœur de la question, à la radicalité du mouvement pur, qu'on appelle parfois cinéma pur également. Et elle se pose deux questions, en fait. Premièrement, l'utilisation du cinéma dans ses dimensions utilitaires, ce qu'elle appelle les applications ou les entraves, copier le cinéma sur les arts anciens. Elle dit le cinéma ne doit rien aux arts anciens, il doit tout à lui-même, il doit trouver en lui-même ses propres forces, sa propre puissance. Et cette puissance, cette nouveauté-là, créatrice, c'est le mouvement, c'est l'idée de mouvement.
J'ai l'impression que Germaine Dulac, elle est tout à fait la sorte de pionnière par rapport à ce qu'on appelle depuis quelques années le cinéma haptique.
Laurent Guido, professeur à l'Université de Lille 3.
Vous savez, ce cinéma qui met en avant tout le potentiel du mouvement de caméra, du travail sur l'image, pour proposer une appréhension de l'espace, du temps, beaucoup plus sensorielle. D'où ce terme de haptique, c'est-à-dire un cinéma qui développerait presque le sens du toucher, qui proposerait à son public une expérience sensorielle. Je pense au cinéma de Claire Denis, au cinéma de André Arnold, par exemple, qui utilise le potentiel aussi de ces dernières années, de la caméra en mouvement, de la petite caméra vidéo. C'est une manière de filmer avec beaucoup plus de mouvement, qui d'une certaine manière fait écho à cette perception de notamment du rapport à la nature, comme un grand rythme dans lequel on peut se plonger et avec laquelle la caméra aurait des affinités.
Rythme et technique. Je puis dire que pas une image de la coquille et du clergyman n'a été livrée au hasard. On me demande de révéler la technique de certains effets. Les effets ont eu moins d'importance pour moi que la mesure, la cadence, l'orchestration visuelle dont ils n'ont été qu'un élément. Jeu de cache et de contre-cache et de vues prises en plusieurs fois, puis raccordées. Parlerai-je des figures ou des corps déformés au moyen de prises et de miroirs d'acier ? Diastre fort qui élargit ou allonge, brachyscope qui éloigne et double le champ. Polytipare, aux surimpressions directes, plaques miroitantes aux ondes mouvantes. Mais que serait-il sans la découverte des harmonies et l'étude de la cadence ? Je conçois un film sans recherche optique. Je n'en conçois pas sans notes sensibles ni rythme.
Je pense que la cinéaste qui peut-être a le même poids que Germaine Dulac dans l'histoire du cinéma est Maya Deren. Donc, une trentaine d'années plus tard, elle aura aussi cette dimension théorique et pratique de ses films. Il y a aussi le lien à la danse, curieusement. Et la défense d'un cinéma libéré de l'influence des autres arts, un cinéma qui s'exprime visuellement et temporellement de manière autonome. Et Maya Deren, justement parce qu'elle met en avant cette fascination par les phénomènes purs de la nature que seule la caméra peut dévoiler.
Et je pense que pour un jeune cinéaste aujourd'hui, relire Dulac, c'est retrouver comme une espèce de fraîcheur. En fait, d'un cinéma, il faut insister sur un point. Dulac, c'est pas du tout, ses textes sont pas du tout des textes intellectuels. Ces films ne sont pas des films intellectuels. Il y a quelque chose de très sensuel. Le mot sensation pour elle est très important. Impression, sensation. C'est un cinéma très physique et une pensée très physique. À la fois, comme elle le dit pour le mouvement, très matériel et très spirituel. L'alliance des deux, des doubles dimensions. Il y a une dimension matérielle du mouvement. L'image mouvement dans son dispositif, mais tout ça pour exprimer la profondeur des sentiments, des pensées, les mondes extérieurs et les mondes intérieurs. Et là, il y a quelque chose, je pense, qui pourrait faire écho, et peut-être c'est le succès de Dulac aujourd'hui, qui fait écho, en fait, à des... Prenons un exemple très simple, les petites caméras, aujourd'hui, permettent tout à fait de réaliser des films à la Dulac, si on peut dire, pris dans le mouvement très libre. Cinéma personnel, elle insiste là-dessus. Le cinéma, en fait, est fait pour l'expression de l'auteur. Elle est la première à se poser la question, qu'est-ce que le cinéma et qu'est-ce qu'un auteur, qui est l'auteur d'un film? Dans la querelle qu'elle a avec Artaud qui veut l'auteur du scénario, qui veut se revendiquer aussi comme auteur du film, et elle insiste bien que c'est elle l'auteur, c'est la cinéaste qui est l'auteur, c'est une espèce d'affirmation très moderne, très autoriste, on dirait aujourd'hui, de savoir qui est l'auteur, c'est celui ou celle qui réalise le film.
Elle se sentait quand même toujours un peu prisonnière de la situation du négoce, de l'industrie du cinéma à son époque, ce qui explique aussi pourquoi elle a tellement agi par ailleurs pour débloquer la situation de l'extérieur aussi, c'est-à-dire du point de vue de la distribution, de l'éducation, de la recherche, des ciné-clubs, etc.
Quand en 1924, nous avons fondé le Ciné-Club de France, nous voulions précisément éduquer le goût du public en projetant certains films qui firent date dans l'histoire du cinéma et influencèrent très heureusement les œuvres qui suivirent. La fédération que je dirige poursuit les mêmes buts. Ainsi donc, la censure s'avère comme inutile. On ne peut pas empêcher de projeter en privé pour les membres d'un club, quelque film que ce soit.
Son héritage, moi, pour moi, c'est ce qu'elle a le mieux écrit, c'est son idéal du cinéma pur et cinéma intégral. Et elle avait une utopie qui était de quand même arriver à faire la synthèse entre ce qu'on appelait l'avant-garde, le film absolu, on pense à Richter, à Egling, à Ruttmann, les premiers films abstraits, à Chaumette, et ce qu'elle appelle l'anecdote, c'est-à-dire que quand même, il faudrait qu'il y ait un sujet, malgré tout, une petite ligne narrative, une anecdote. Elle espérait toujours faire la synthèse de ça. Mais là où elle s'exprime le mieux, et là pour la partie pour laquelle, enfin, que je considère moi, enfin, dont nous héritons, c'est finalement, c'est un petit peu de retourner le paradigme que le cinéma, ça serait de donner une forme à un contenu, qui serait le scénario, qui serait une intrigue, qui peut être un message politique. Là, c'est l'inverse. C'est que la forme cherche son contenu. En ce sens-là, elle est proche des formalistes russes. C'est-à-dire qu'elle revient toujours aux Frères Lumière, et puis elle découvre aussi beaucoup le cinéma scientifique, qui était programmé dans les salles d'avant-garde. C'est-à-dire ce qu'elle appelle réellement la force démonstrative du cinéma. Et son exemple qui revient toujours, c'est la germination du grain de blé. Et ça, c'est typiquement ce qu'on pouvait faire avec le cinéma scientifique, c'est-à-dire accélérer la croissance d'une plante visuellement, l'accélérer visuellement. Et tout d'un coup, il y a un drame qui est à la fois un drame plastique, un drame de la vie, c'est cette tige qui... efflorescence de la vie. Et là, tout d'un coup, il y a réellement une émotion pour elle qui est au-delà des conventions, de la comédie, de la représentation et du drame humain.
Or, le cinéma n'est pas fait seulement pour narrer de piètres ou gentilles aventures. Il est un art nouveau, un art visuel, un art de mouvement qui possède son esthétique personnelle, en dehors des principes dramatiques et littéraires actuels, un art qui a sa grandeur. Devant se plier pour des raisons financières aux exigences du grand public intellectuellement indifférent, le 7e art étouffe et végète. Enfermé dans les frontières d'une compréhension, je ne dis pas erronée, mais étroite. Le public, plus que les cinéastes, influence les destinées du cinéma.
Germaine Dulac, elle fait partie de cette génération de cinéastes des années 20 qui ont été véritablement tourmentés par le rapport entre le cinéma et la musique, et plus précisément l'idée selon laquelle le cinéma serait une sorte de musique, une musique des images, une musique visuelle. Et de mon côté, j'ai travaillé sur cette question, sur cette idée de l'analogie musicale pour penser le cinéma, et qui a été une idée assez forte, qui a permis à des cinéastes, mais aussi à des théoriciens, théoriciennes du cinéma, comme l'était aussi Dulac, hein, pas seulement des créateurs, créatrices, mais aussi des personnes qui réfléchissent et qui ont essayé aussi de réfléchir dans le sens d'un renouvellement, d'un approfondissement du cinéma comme art. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'idée du cinéma comme musique a été très présente. La musique a été un modèle à un moment donné pour permettre au cinéma de passer un cap, selon les personnes évidemment qui croyaient à cela, hein, bien sûr. Et Germaine Dulac, c'est vraiment une des principales contributrices, on pourrait dire, à cette idée théorique que le cinéma serait une nouvelle forme de musique, une musique non plus seulement sonore, hein, mais une musique visuelle.
Elle parle du cinéma en termes de musique, ce qu'elle appelle aussi l'insaisissable, comme une force qui traverse tous les états du cinéma. Mais on pourrait dire que cette force aussi traverse tous les états de sa propre vie, d'une certaine manière. Et toujours presque à l'avant-garde des choses. Un exemple, elle vivait avec sa compagne très ouvertement. Dans tout ce que j'ai lu d'ailleurs, j'ai vu très très peu de propos misogynes sur elle. Je pense qu'elle-même, elle était multiple. Elle était séductrice. C'est très intéressant la manière dont les journalistes décrivent l'arrivée chez Germaine Dulac. On la décrit comme quelqu'un de homasse, un peu forte, habillée comme un homme. Et d'un seul coup, Madame Germaine Dulac parle et c'est un poème. Et donc cette espèce de biface, là aussi. Et auprès du public, une défense inlassable du cinéma comme art. Je me suis intéressé à cet aspect, ce que j'ai appelé la Dulac pédagogue, c'est-à-dire que elle met en cause, elle c'est toujours une adresse au public, et elle emploie un mot très fort, elle dit toujours « je crie ». C'est à vous, le public, de nous aider à défendre le cinéma comme art. Si vous n'êtes pas là, nous les créateurs, nous ne sommes rien. Donc, c'est pas du tout un cinéma de chapelle refermé, au contraire, elle va au front, elle va au combat, elle se bat pour ça, elle emploie toutes les armes, elle s'adresse à tous les publics, public savant, public féministe, public populaire.
Le succès d'un film, c'est par le rythme visuel et musical que les peuples doivent se comprendre. Le rythme est dépendant de l'instinct. Les mêmes sentiments agitent l'humanité. Il faut chanter l'humanité. Ce que je souhaite, c'est que le public de chaque pays ne s'attache pas à une seule forme de rythme visuel, mais les comprenne toutes, agissant en cela comme vis-à-vis des œuvres musicales.
Pourquoi la musique est convoquée alors qu'a priori le cinéma doit trouver ses moyens propres d'expression? Eh bien, l'idée, c'est que la musique, elle offre un modèle. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas tellement d'ajouter de la musique ou de travailler de concert avec la musique, mais plutôt de s'en inspirer comme d'un modèle. Je rappelle que il y a, dans toute cette génération de cinéastes à laquelle appartient Germaine Dulac, il y a une espèce de tension entre avant-gardisme, modernisme, hein, le rapport à la modernité technique et scientifique. Et puis, il y a aussi un fond romantique qui s'exprime en permanence. Hein, le modèle du poète romantique, que ce soit Abel Gance ou que ce soit Germaine Dulac, c'est quelque chose qui joue un rôle très important dans leur imaginaire. Bon. Et donc, je dirais romantique et aussi un peu symboliste. Bon. Et donc, chez les romantiques, la musique, depuis le début du XIXe siècle, joue un rôle particulier dans les différents arts. C'est-à-dire que la musique, ce n'est pas seulement un art, c'est l'art, le seul art, l'art suprême. Si vous lisez l'esthétique de Hegel, si vous lisez Schopenhauer, des philosophes de l'époque romantique, pourrait-on dire, ils placent la musique bien au-dessus, bien au-delà des autres arts. Et donc, la musique, c'est l'art suprême et c'est l'art de référence. Et c'est probablement la raison pour laquelle quelqu'un comme Germaine Dulac va y trouver, au-delà des autres arts, hein, un modèle parfait pour le cinéma. Parce que le cinéma, d'une certaine manière, a pour mission de devenir l'art suprême, au même titre que la musique. Donc la musique, c'est pas tant l'idée de s'adjoindre à la musique, même si c'est une donnée aussi très importante de la réalité de ce qu'a été le cinéma à l'époque muette, hein, cette alliance avec la musique, mais c'est au-delà de ça l'idée de trouver un modèle dans la musique. Oui, très clairement, Germaine Dulac, elle va travailler beaucoup, un petit peu à l'écart peut-être des grandes formes narratives du cinéma de fiction, et elle va développer beaucoup de choses en rapport avec la musique, donc notamment en rapport avec la danse.
Antoine Godin, maître de conférence à Paris 3.
Le film Danse espagnole, par exemple, qui est un court-métrage basé sur deux airs de musique andalouse de l'époque, est un film qui est totalement précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin de ce que moi j'appelle le clip performantiel, c'est-à-dire le clip qui met en scène l'artiste musical en train d'interpréter un spectacle musical, souvent un spectacle de danse. Quant au film Thèmes et variations, il est un petit peu plus ambitieux sur le plan artistique, il va un petit peu plus loin, il est plus avant-gardiste, puisqu'il mêle des images d'une danseuse en tutu. Et c'est important de le préciser parce que Germaine Dulac fait ici référence à une forme de danse très codifiée, alors même qu'elle travaille à une époque où la danse moderne est déjà en plein essor. Et le montage de ce film, Thèmes et variations, donc met en rapport les images de cette danseuse en tutu, des images très fragmentées, très disparates, avec des images d'autres types de mouvements, comme les mouvements de la nature, les mouvements des branches dans les arbres et surtout les mouvements des machines. Et c'est un film, Thèmes et variations, dans lequel la danse, je dirais, connaît une extension sémantique. Ce n'est plus seulement le corps humain en tutu qui danse, comme dans le ballet classique, mais c'est le monde entier qui danse. Et elle a ouvert la voie, on pourrait dire, elle a contribué à ouvrir la voie à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le vidéoclip conceptuel ou expérimental, le vidéoclip d'avant-garde. Avec des films donc comme Disque 957 ou Arabesque, qui sont là encore des films expérimentaux, des courts-métrages de 6-7 minutes, tournés à la fin des années 1920. À chaque fois, ce sont des films qui prennent appui sur des morceaux musicaux préexistants, même si on ne les entend pas toujours lors des projections, puisqu'on était encore à l'époque du cinéma muet. Disque 957 est basé sur les préludes 5 et 6 de Chopin, et Arabesque sur les Arabesques 1 et 2 de Debussy. Donc ce sont des films qu'il est possible de visionner uniquement avec l'image, comme une sorte de musique des images pures, et il est également possible de synchroniser les morceaux musicaux à la base de ces films pour avoir une véritable forme musico-visuelle qui, pour le coup, à ce moment-là, se rapprocherait assez parfaitement du clip, mais là, pour le coup, du clip très expérimental, puisque ce sont des films très abstraits. Disque 957 est basé essentiellement sur des formes circulaires, et Arabesque sur des jeux de lumière. Et puis pour finir ce petit parcours, il y a également la question du clip narratif, hein, parce que parfois le vidéoclip raconte des histoires, comme un petit court-métrage de fiction. Et à ce titre-là, Germaine Dulac, elle a vraiment amené quelque chose, paradoxalement, au tout début du cinéma sonore, quand elle a mis en musique des chansons illustrées de Fréhel, de l'artiste musical Fréhel. Elle a mis en musique notamment la chanson « Toute seule » et la chanson « À la dérive » dans un programme, un court film expérimental de 5 minutes qui s'intitule « Celles qui s'en font ». Et là, Germaine Dulac, elle va
peut-être revenir à quelque chose d'un petit peu plus conventionnel dans sa mise en scène par rapport aux expérimentations abstraites de Disque 957 ou d'Arabesque. Quelque chose de plus conventionnel parce que finalement il s'agit essentiellement voilà, de raconter une histoire par le biais de l'image.
Quand il me prenait, plus rien n'existait, car j'étais sous bien des choses comme une captive.
C'est un petit peu ce qu'on avait vu beaucoup dans le film, dans la période du cinéma muet. Mais la grande différence ici, c'est que, il y a une chanson populaire à chaque fois, celle de Fréhel, qui structure le tournage et le montage des images. Et c'est une chanson que l'on entend dans la salle quand on va voir ces films. Donc on est vraiment là avec Toute seule et à la dérive. Réunis dans le programme Celles qui s'en font, est vraiment dans une forme qui a toutes les apparences du vidéoclip musical tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Pour l'amour, je suis bien une machine. Et j'étais pas feignante pour lui. Je souriais, cachant ma détresse.
Ah oui, par contre, il y a une chose que je voudrais peut-être, dont on ne parle pas beaucoup, de Dulac, c'est par rapport à la couleur. Parce que ses films sont en noir et blanc. Bon. Mais elle rêve d'un cinéma en couleur. Et, par exemple, il y a une scène très intéressante, c'est aussi dans Madame Bedet, où le mari, on voit le mari, c'est une espèce de salon, salle à manger, il vient, il y a une table là, enfin très, très 1920, un peu bourgeois, mais pas comme dans sa famille, bourgeois la catégorie en dessous. Hein. Bon. Et là, il y a une espèce de pot de fleurs, avec dans une espèce de jatte, garniture, etc., qui est en noir et blanc. Bon. La femme qu'on a vue, Madame Bedet, entre dans la pièce. Elle voit ça. Et les fleurs qui sont là, elle prend elle le met à un endroit. Et elle va vers la fenêtre. Arrive son mari derrière. Bon. Il arrive, il voit la fleur. Et il prend ça. Et il le met ailleurs. Pas où c'était. Ailleurs. Bon. C'est tout simple, tout être. Mais je me dis, moi, si ce plan, je comprends pourquoi c'est posé le problème de la couleur. Si ce plan avait été en couleur, ou si on avait passé l'un en noir et blanc et l'autre en couleur, les choses auraient dit encore autre chose. Et c'est ça qui l'intéresse, vous voyez? Elle va chercher des choses comme ça. Et puis aussi, il y a le fait que dans un film, mais c'est comme tous les arts, je dirais, la littérature, la musique, il n'y a pas de détails. Tout compte. Absolument tout.
L'avenir est à nous, du moment que l'on s'aime, chaque espoir que l'on s'aime.
C'était Toute une vie, Germaine Dulac, avec Dominique Willoughby, Barbara Janikas, Tammy Williams, Anne Imbert, Prosper Hilleray, Laurent Guido, Antoine Godin, et Johanna Vaude, vidéaste, lit les textes de Germaine Dulac. Archive INA, Clary Monac. Prise de son, Clara Galivelle, Manon Houssin, Audrey Gaylil. Mixage Cédric Châtelut, attaché de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. C'était un documentaire d'Alexandre Vuillaume-Tilski, réalisé par Julie Béressi.
L'avenir est à nous.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécouter bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre et Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France.